C'est la deuxième heure de ce 1192e Sweet Home Chicago avec l'invité de la semaine, monsieur Jean-Christophe Panucco. Il est dans le studio.
Baby, don't you wanna go back to the same old place, Sweet Home Chicago.
Yeah! Putain, de quoi je vais me plaindre? Ça nous rappelle les belles heures, hein, les années 90, les années Patrick Verbeek sur Europe 1.
Exactement.
Jean-Christophe, comment vas-tu?
Ah, ça va super. Toujours quand je te vois et toujours quand je suis là, Marc.
Ah là là. Avec grand bonheur, tu reviens, parce que ça faisait déjà quelques mois.
Oui, c'est vrai, ça faisait longtemps. J'ai laissé mes pantoufles à la maison.
Oui.
Ton
rond de serviette, tu l'as toujours.
Mon rond de serviette, je l'ai.
Pas de problème. Et donc, tu viens nous apporter quelques disques. Et puis, ta guitare, c'est quoi cette guitare à résonateur? C'est un tricône?
Non, c'est un résonateur. C'est un duo Lian, à vrai dire. Voilà. Michael Messer, c'est une chinoiserie améliorée en Angleterre.
Michael Messer, voilà. Ça me parle, ce garçon-là.
Très amélioré par un fabuleux luthier canet, Mathieu de l'atelier Guisaïmat, que je salue.
C'est bien de l'avoir cité. Jean-Christophe, ton actu en ce moment, c'est bien entendu ton album qu'on avait présenté en novembre dernier avec Laurent Schumach.
Ouais,
ça fait déjà presque 12 ans que vous collaborez ensemble, vous travaillez ensemble.
C'est vrai.
Est-ce qu'on peut appeler ça du travail d'ailleurs?
Il y en a quand même un peu.
Il y en a quand même un petit peu.
Ça n'exclut pas le plaisir, mais il y a quand même pas mal de travail.
De toute façon, ce genre de travail sans plaisir, c'est juste impossible.
Exactement.
Et donc cet album Miettes d'éternité, double album, faut-il le rappeler, dont on va s'empresser d'écouter un extrait en fin d'émission. D'ailleurs, je te laisserai choisir quel titre, bien sûr, Jean-Christophe. C'est un disque qui a été bien accueilli par les amis, par le public, par la presse.
Oui, écoute, bien accueilli par les amis, par le public, par la presse. Alors, bon, comme toujours, on aimerait pouvoir le défendre encore plus qu'on peut le faire sur scène, mais les choses se font et puis les choses viendront si elles doivent venir, voilà.
Quels sont les bons souvenirs de ces derniers mois, justement, par rapport à la sortie de l'album?
Il y a eu des belles scènes, hein. On a eu une belle scène au Portobello, on a présenté l'album en septette. On a eu une autre scène qui était très sympathique à l'Espace Tandem à Caen, où on a également présenté l'album en septette. Et puis quelques dates aussi dans une formule quatuor, avec Laurent et moi à la guitare acoustique, et puis nos choristes de choc Océane et Dorothée, dans une formule assez intimiste qu'on est en train de développer. Et puis bien sûr des concerts avec les Witch Doctors, où on glisse bien sûr des titres du répertoire également.
Voilà.
Tout ça est une grande famille cohérente.
On va rappeler que Laurent Schumach est un Witch Doctor maintenant titulaire.
Ah, titulaire, hein? Oui, bien sûr.
Ça n'a pas toujours été le cas, au début c'était un trio.
Ouais.
Et donc Laurent, qui lui aussi nous fera une petite carte blanche, bien sûr. Et aujourd'hui, moi je te proposais de revenir sur des choses, pas forcément du passé très très lointain d'ailleurs, ça peut être des vieux bluesmen, ça peut être des gens disparus, mais également des contemporains. Alors là, tu as laissé parler ton cœur.
Oui, je fais à chaque fois que tu me proposes ce genre de choses, j'essaie surtout de ne pas réfléchir et d'attraper finalement ce qui fait mon pain quotidien musical des jours... de ces jours-ci, quoi, voilà. Alors, il y a des choses que j'écoute depuis très longtemps, d'autres que j'écoute depuis moins longtemps, mais je pense que c'est assez raccord avec la tonalité de l'émission.
Le premier qui arrive, lui, nous a quitté il y a déjà une bonne quarantaine d'années, et ça fait partie, là, encore, de tes premières expériences blues
ou... Ah, absolument.
Ouais, tu l'as découvert vers tes débuts.
On parle de Lightnin' Hopkins,
hein,
grand bluesman texan, qui reste, c'était un de mes premiers chocs de blues acoustique, précisément, et ça reste certainement mon bluesman préféré, c'est-à-dire celui que je peux écouter n'importe quand et qui m'intéresse toujours et dont j'adore l'approche, dont j'adore la voix, les chansons.
Celui dont on aurait pu faire une heure entière, finalement.
Ah,
parce
oui,
que là,
il y a matière.
Discographie
pléthorique. C'est un des bluesmen qui a le plus enregistré sur un nombre de labels incalculables. Et on cite cette anecdote, j'avais vu cette interview de Jimmy Vaughan. On lui demandait comment est-ce qu'il tuait le temps quand il était en tournée. Il dit je cherche des albums de Lightnin' Hopkins que j'ai pas et j'en trouve encore maintenant.
Excellent. Un garçon né en 1912, juste un an après Robert Johnson, que tu jouais tout à l'heure, et qui nous a quitté, je crois, de mémoire.
82.
82, c'est ça. Donc, au moment où, à peu près, mes débuts en radio. Et en 82, tu avais 4 ans.
C'est ça.
Tu n'étais pas tout à fait à contemporain de Lightnin' Hopkins, mais presque.
À vrai dire, je l'ai découvert précisément 10 ans plus tard, grâce à l'intervention providentielle d'une prof d'anglais très sympathique, Liliane Kasmarek, qui est plus là maintenant, mais qui a eu la gentillesse de me donner une pile de disques, enfin de me prêter une pile de disques de vinyle de 33 tours, et j'avais cet album fantastique de Lightnin' Hopkins, Blues in the Bottle, chez Bluesville, qui m'a complètement retourné la tête, parce que c'est la première fois que j'entendais un bluesman raconter des histoires seul avec sa guitare, avec immédiatement un univers, un son, et ça a changé plein de choses pour moi. Ça a changé mes goûts musicaux, mais ça a changé aussi ma façon d'approcher la guitare, d'approcher le blues. Voilà.
C'est également cet artiste et cet album que tu as choisi pour une autre rubrique de l'émission Les Incontournables, hein, parce que...
Oui, certainement. Oui.
Ah oui, ça va venir dans quelques semaines encore. Et là, je te propose de nous présenter l'album que tu nous as apporté.
Alors, j'ai amené une compilation parce que j'ai un très gros coffret, l'intégrale des séances Prestige Bluesville de Lightning Hopkins, début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Et j'ai choisi un morceau de gospel parce qu'il n'est pas très connu pour ses gospels, Lightning, mais il approche le gospel d'une façon totalement réjouissante avec une toute petite formation derrière basse-batterie, je crois. Et c'est une facette de Lightning que j'aime beaucoup.
Ça s'appelle
I Got a Leak in this Old Building, qui est une adaptation de There's a Leak in this Old Building, qui est un chant religieux. Voilà.
Merci Jean-Christophe. Lightning Hopkins.
I got a leak. I got a leak in this old building. Got a leak. Leaking in this old building. Leak. It gave me mighty bad feeling. It rain, rain, rain. It rain, rain, rain. It rain, rain, rain. Rain all the time. Keep on raining this way. Can't see myself no day. Keep on raining this way. Yeah. There's a hole in this old building. It's got to be fixed. Don't I want on it? I said raining, raining, raining. Raining all the time. Keep on raining, raining in this old building of mine. Oh, it's raining. Building of mine. Sun done come down. It's beginning to shine. Every crack I got is sunshine. If you don't fix this building, I believe I'll change my mind. Leaking in this old building, I can't see the reason why. You must wanna see lightning, whole family die.
Monsieur Lightning Hopkins, le griot texan, hein, c'est ça Jean-Christophe en
exactement,
fait.
Exactement, hein. Exactement.
Alors merci pour nous faire partager ce truc-là. Alors à gospel, on peut le dire, quels sont les rapports qu'entretiennent entre le gospel et le blues depuis le temps qu'ils existent? C'est pas un peu antinomique tout ça?
Je vais laisser les
tu grands... nous dis ça à Radio 666,
je vais laisser les grands encyclopédistes et les grands théoriciens, les grands raconteurs du blues expliquer ça. Mais... Red Charles, tu te dirais que c'est la même chose. Tu remplaces Jesus par la femme aimée. Et puis,
mais oui.
Voilà, c'est la même chose. Voilà.
Donc le samedi soir, on va dans les clubs de blues et puis on va pour Wash Your Sins Away le dimanche matin dans l'église.
Et Sunday puis, I go to church.
Il y a tellement de bluesman, il y a tellement de blueswoman aussi qui ont démarré à l'âge de 3-4 ans dans les chœurs gospel. Enfin,
ouais, et qui n'ont jamais arrêté de chanter le gospel finalement. Hein,
ouais.
Voilà. T'as pas toujours des histoires de rédemption radicale. T'as pas toujours Thomas Dorsey qui se répand d'avoir enregistré avec Tom Parade en écrivant Precious Lord Take My Hand. T'as des gens qui vivent, qui sont dans les deux registres très très bien finalement.
Lightning Hopkins, en tout cas, voilà, l'a prouvé, on vient de l'entendre. Lightning Hopkins, c'est un garçon, on l'a compris, que tu continues à écouter depuis lors.
Et puis, bon, il a une œuvre colossale, et puis il a improvisé ses chansons en studio. C'est un guitariste qui est habile, qui est futé, qui est intéressant tout en restant simple. C'est un camarade de route de Blind Lemon Jefferson qui l'aurait accompagné quand il était tout jeune, même si on n'a jamais totalement vérifié les informations. Non, c'est une œuvre vraiment, vraiment passionnante.
Guitaristiquement, Jean-Christophe, tu t'es emparé un peu de son style? Tu ne ferais pas de trois notes à la latine?
Alors, j'ai pas la guitare pour ça.
La bonne guitare, mais c'est peut-être les bons doigts quand même.
J'ai pas le bon accordage, j'ai pas tout ça, mais je te ferai ça à l'occasion.
Oui. On va aborder un autre artiste maintenant. Alors lui, il nous a quitté il y a beaucoup moins longtemps que ça, Monsieur Spencer Borel.
Ouais, Spencer Borel qui est parti il y a 2-3 ans. Hein.
Oui. Et bizarrement, son compte Facebook est toujours actif. Hein. Ça doit être
saisi. Son compte Facebook est actif, son site n'est pas actualisé. Enfin, c'était un travail un peu artisanal, je crois, tout ça très familial et qui s'est arrêté un peu net avec son décès. Ouais.
Comme beaucoup, bien sûr. Tu peux nous parler de la genèse, pas forcément de cet album, on va en parler juste après, mais lui, pourquoi ce garçon? Parce que c'est pas un fondateur, c'est pas un pionnier. Hein.
Ah non, c'est pas un pionnier, mais il a toujours condensé à peu près tout ce que j'aimais. C'est-à-dire que c'est une très belle voix, c'est une approche du blues, de la country, du folk qui est assez acoustique, basée sur la slide aussi. C'est un artiste qui arrivait à créer son univers autour de ses influences New Orleans, mais extrêmement large finalement, juste avec sa voix et sa guitare, avec des musiciens qui venaient poser des touches à droite à gauche. Et je trouve que tous ses disques sont intéressants, qu'il s'agisse de reprendre des morceaux traditionnels ou qu'il s'agisse de ses compositions personnelles. Il apportait un supplément d'âme énorme à ce qu'il pouvait faire. Et pour moi, ça fait partie des artistes épais. Alors, tu sais, tu programmes à longueur d'année beaucoup de nouveautés, beaucoup d'artistes qui émergent avec des choses qui sont très très intéressantes, mais au-delà du plaisir fugace d'écouter un morceau de blues qui swing, etc., de temps en temps on découvre des artistes épais avec une œuvre, avec une façon d'approcher les choses qui est très personnelle, et Spencer c'est exactement ça.
Oui.
Je me lasse pas de son œuvre qui est pas colossale, mais qui est toujours extrêmement personnelle et extrêmement profonde.
Alors Spencer Borel, cet album s'appelle Seven Birds, un album que je découvre peut-être avec vous, amis auditeurs, enregistré dans la fin de sa carrière, en 2015, hein,
récent. Oui, dans les 4-5 dernières années de sa vie.
Et le choix de ce titre, Jean-Christophe, qui s'appelle Disappearing
Nightly.
Nightly, voilà.
Ouais, alors, j'aurais pu choisir... tout l'album est excellent et vraiment, il n'y a pas beaucoup de déchets chez Spencer. Mais ce titre, je l'avais découvert avec un autre album plus ancien de Spencer Borel du début des années 90 qui s'appelait Full Moon, je crois.
Oui.
Et il y avait une version de ce titre avec la particularité d'avoir Francis Cabrel dans les chœurs.
Tiens donc.
Ouais, alors, c'est pas cette version-là. Ça fait partie des titres qui me sont toujours restés un peu en tête avec un mélange, une petite synthèse, J.J. Cale.
Tu l'as vu sur scène, Spencer Borel?
Non, j'ai pas eu cette chance-là.
Est-ce que Francis Cabrel reprend ce morceau-là quand il fait des concerts?
Non, je ne pense pas, non. Francis en anglais, c'est pas son truc.
On va écouter ça. Merci Jean-Christophe.
think I should. I move nearly every day, trying to drive the blues away. I do what I wanna do, I know who I'm talking to. I'm heading down a highway, I always do it my way. Disappearing nightly, I'm disappearing nightly, I'm disappearing nightly. I always take my pay in cash, kings, queens, and jacks. Life is like a card game, playing for a prize of fame. Writing down another tune, yet another dressing room, cut another piece of cake. I'm looking for a big break. Disappearing nightly, disappearing nightly, I'm disappearing nightly.
Spencer Boren avec un extrait de cet album Seven Birds apporté par Jean-Christophe Panico qui est l'invité de la semaine. Jean-Christophe avec toujours la guitare sur les genoux.
Ouais.
Un morceau très JJ Cale. Hein.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait.
C'est
ce qu'on se disait. Hein. Oui, bien sûr que c'est voulu. Enfin, j'imagine. j'étais pas dans le studio, mais j'imagine.
on parlait de voyage, enfin on parlait de lieux américains, plus spécifiquement la Nouvelle-Orléans. C'est un endroit que tu connais, que tu as.
Oui, oui. Ouais. J'ai eu la chance d'y passer quelques jours, il y a bien longtemps maintenant, mm-hmm. en 2000.
Donc, 2000 voilà, avant Katrina.
Avant Katrina, ouais. Avant Katrina.
Et Tulsa, Oklahoma, non, par
non, contre. Non, 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 non.
Ça
non,
fait
non,
partie
non,
de tes projets ou pas spécifiquement?
Oh, ça pourrait faire partie de mes projets, oui, oui. Ouais.
Et est-ce que le fait d'aller sur les terres des musiciens comme ça, est-ce que c'est quelque chose qui est source d'inspiration particulièrement pour toi, ou est-ce que ton inspiration, celle qui nourrit ta musique, tu la trouves un peu partout dans la vie?
Oh, je la trouve un peu partout dans la vie, tu sais. Ouais, je la trouve un peu partout, à vrai dire. Si j'ai l'occasion de pouvoir visiter les lieux, c'est tant mieux, c'est bien de s'imprégner des lieux. Je suis comme tout le monde, quand je me suis retrouvé au milieu d'un champ de coton et que j'ai touché la terre du Mississippi, ça m'a fait un grand quelque chose. Maintenant, de se dire que c'est ce qui te nourrit, non, il y a beaucoup de choses partout. Alors si un jour je peux faire un périple en immersion, j'aimerais beaucoup le faire,
oui.
C'est certain. Maintenant, on est tellement entouré de la musique qu'on aime, de blues, et puis on est inspiré aussi par les gens qu'on côtoie dans notre vie de tous les jours. Tu sais, tu vas sur mes terres natales de l'Est, tu as une idée assez précise de ce que peut être le blues aussi.
Le blues, oui, c'est pas exactement le même, effectivement. On a plus les résurgences de ce qui s'est passé il y a 100 ans, il y a un peu plus.
Exactement, hein, mais regarde à quel point on a des beaux artistes européens. Tu vois,
oui.
On a des beaux artistes oui. dans les Flandres, on a
et même français.
Dans les pays. Hein. Non, oui, absolument. Oui.
Jean-Christophe est donc qui, avec Laurent Choubrac, a commis ce miette d'éternité. Est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu pourrais nous interpréter comme ça en direct avec cette guitare?
Ah oui, bien sûr.
Un truc à toi.
Un truc à moi. Alors, ouais. Peut-être pas un extrait de miette d'éternité. Tu te souviens de mon premier album solo, Une raison de vivre?
Oui, Une raison de vivre, oui, bien sûr.
Alors sur Une raison de vivre, il y a deux trois chansons. Alors on y va. Une chanson qui s'appelle Poussière, tu te souviens?
Poussière.
Mmh.
Allons-y.
Prête-moi une heure de ta vie. Quand la mienne tombe en poussière, qu'ils vendent que volent les rêves que brise la ville, ses chimères, que crèvent ou vivent ces flammes trop frêles, ces plaies vives qu'on empoisonne de sel, de sang, de songe à suivre dans cette vie qui tourbillonne, tes ongles écorchés aux fraîches colonnes des pleines lunes. Ce marbre froid d'amour fait l'heure aux flammes chassées par le froid. Que tu t'agrippes, que tu t'accroches, l'espoir expire en poussière. Et toi tu pries quand l'ombre approche pour entrevoir la lumière. La gloire cette pute au souffle bref et le diable son souteneur ronge ton cœur comme un cancer et prenne de toi le meilleur. Là où tu tutoyais l'extase, tu voyais l'eau dans le désert. Tu plies les mots, tu tronques les phrases pour l'enfance froide qu'elle préfère. Dieu enseigne que l'on pardonne, l'amour est son seul concept. En son nom d'étranges plaintes résonnent ces aurores froides qu'on accepte. Le matin si peu de mémoire a-t-il déjà séché ses pleurs? Puisse les leçons de son histoire redonner un sens à ses peurs.
Bravo et merci Jean-Christophe Panicaud dans la radio, un album que tu avais enregistré dans
2017 avec Laurent, ouais, produit par Laurent. Ouais.
Et donc ça fait partie de ton répertoire, c'est quelque chose que tu joues aussi avec les Witch Doctors?
Ah oui, c'est des chansons, les chansons de cet album sont jouées avec les Witch Doctors, mmh. Ouais, quasiment systématiquement il y en a 2-3, et puis jouer en duo aussi avec Laurent ou en quatuor avec Laurent, ça fait partie de notre répertoire, oui. Ouais. Il y a notamment sur cet album une chanson qu'on reprend systématiquement sur scène maintenant, qui est « À quoi bon se donner toute cette peine pour vivre ?»
Oui.
Voilà.
« La gloire, cette pute au souffle bref et le diable son
souffleur. » Ça t'avait marqué à l'époque, ouais, déjà.
Franchement, ces paroles-là, ce troisième couplet, c'est le troisième couplet hein, quand qui démarre comme ça, je crois. Et ça me donne plein d'idées. Et puis, ça fait aussi réfléchir sur un certain nombre de choses. Par exemple, le fait que tout à l'heure, on évoquait Spencer Boren. Ce n'est pas un garçon hyper médiatisé. De toute façon, cette musique... n'est plus médiatisé depuis fort longtemps. Et ça n'empêche pas les talents d'émerger, les talents de continuer, et puis les carrières de se construire au fil des années. On arrive encore à découvrir des artistes, même si leur premier album date d'il y a 40 ans. C'est ça la magie.
Mais encore faut-il chercher, tu vois.
Voilà.
Et on est dans une situation extrêmement paradoxale où la musique n'a jamais été aussi disponible. Mais toi comme moi, parce qu'on est à peu près de la même génération, on sait ce qu'est le goût de la quête, le goût de chercher des disques, de trouver de la musique, de trouver un artiste. Et tu te rends compte que cette disponibilité totale fait que les gens sont très peu curieux. Je connais tellement de gens qui écoutent inlassablement les cinq mêmes morceaux, les cinq mêmes albums depuis toujours. Alors on est quelques-uns à partager, alors notamment les auteurs-compositeurs, les créateurs, mais les amoureux de musique, à chercher toujours de nouveaux frissons et toujours de nouveaux artistes à découvrir.
C'est aussi dû aux algorithmes, quelque part, à partir du moment où tu aimes tel ou tel truc, quand tu vas acheter sur une plateforme ou quand tu vas écouter de la musique. Bref, on va te faire écouter toujours les choses un petit peu vraiment trop similaires, quoi.
Ouais, mais on peut le niquer, l'algorithme, tu sais.
Oui. Oui. Tu m'expliqueras comment.
Écoute des choses extrêmement diversifiées, tu verras que ton algorithme sera ton ami, il te proposera d'autres choses très intéressantes.
Très, moi,
j'aime bien mon YouTube, personnellement.
Bon. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui écoute Sweet Home Chicago actuellement? Par définition, les gens qui sont de l'autre côté du poste sont des auditeurs. En ce moment, quels sont les disques tout récents, hein, en dehors de ceux que tu as apportés aujourd'hui, que tu as découvert dans l'année dernière glissante, là, 2022-2023, des choses qui t'ont marqué et dont tu penses que ce sont des artistes qui vont durer, peut-être?
Alors, des découvertes vraiment marquantes. Je sais qu'il y a une artiste dont on parle pas mal ces derniers temps, parce qu'elle est passée il n'y a pas très longtemps à Bain-de-Bretagne, mais tu vois, Whitney Shea, je trouve que c'est un talent qui émerge et qui est fort, tu vois.
Très bon exemple. Ouais.
Voilà.
Tu l'as vu sur scène ?
Non, je l'ai pas vu sur scène. J'ai chroniqué son disque, j'ai écouté son disque, et j'ai trouvé qu'il y avait une personnalité, qu'il y avait quelque chose. Ouais. Ouais. Alors c'est un exemple comme ça. J'en ai pas plus mis.
Pour l'avoir vu sur scène, mais tout récemment, hein, c'était le week-end dernier, effectivement, à Bain-de-Bretagne. Je peux confirmer, voilà, que c'est pas seulement une très très grande vocaliste, compositrice, mais aussi une showwoman hors pair. Enfin, elle a vraiment fait le truc, quoi. Cette soirée de vendredi, c'est le concert qui a émergé avec à ses côtés Laura Chavez et Katharina Pechak.
Et l'excellent Denis Palatin.
À la batterie, effectivement. Il y a une scène française aussi qui est absolument phénoménale. Enfin, il y a des artistes qu'on connaît depuis des années et qui continuent à être créatifs. Ouais. Je sais pas, Muddy Gurdy, Molten Milk.
Nico N. Toussaint, voilà. Mathieu Pesquet.
Exactement. Et ce sont aussi des gens que tu côtoies, que tu connais, avec qui tu communiques sur les réseaux.
Avec qui je communique de temps en temps, que je côtoie de temps en temps. Et oui, également. Oui, ouais. Maintenant, les réseaux permettent les choses et puis on a partagé quelques concerts.
C'est le cas aussi d'un Eric Bibb, par exemple.
Ah, écoute, j'avais posté une vidéo. Alors, je l'ai vu en concert là, il y a deux semaines, là, Eric Bibb.
Ouais.
C'est pas la première fois, mais c'est un artiste que je suis.
C'était à la traverse, non ?
Et j'ai eu un échange avec lui, alors au-delà des petits mots très gentils à la fin des concerts, qui sait toujours dire. Sur Instagram, j'ai posté une vidéo de l'un de ses morceaux, il a commenté, il a marqué Very Fine Picking, ce qui m'a fait vraiment plaisir.
Ça, c'est cool. Eric Bibb, tu le connais depuis longtemps. Hein.
Oh, je l'ai découvert à Cognac au début des années 2000.
Mmh.
Et à chaque fois que je l'ai vu, c'était toujours un enchantement, à chaque fois dans une formule différente. Je le suis. Chaque album est un enchantement. Chaque album est créatif. Pour moi, c'est un des artistes de blues certainement le plus conséquent de ces 30 dernières années, vraiment.
Ouais.
Ouais. Et parce que ça correspond aussi au blues que j'aime. Moi, j'aime beaucoup le blues acoustique, le blues folk. Et j'aime beaucoup ces héritiers de la scène new-yorkaise dont on parle jamais. Tu sais, les bluesmen blancs de Greenwich Village, les Dave Van Dronk, les Happy Trome, tous ces gens-là, Woody Man, c'est les influences directes de bluesmen comme Eric Bibb, comme Guy Davis, comme Alvin Youngblood Hart, comme Keb Mo. C'est des enfants de Taj Mahal, c'est des enfants de Ry Cooder, beaucoup plus que des bluesmen des origines. Et j'aime bien cette tradition qui mélange blues et folk et qui continue à être créative, qui continue à être engagée. Ça m'émeut beaucoup plus que l'énième décalque du Chicago Blues Shuffle qu'on peut voir un peu partout, quoi.
Ouais. Alors voilà, tout à fait, on n'est pas du tout dans le Chicago Blues avec Eric Bibb. On n'est pas non plus dans le larmoyant, dans le pleurnichard, dans l'acoustique pour l'acoustique.
Non.
C'est aussi un artiste de la liberté, c'est un artiste de l'espoir.
De métissage des influences, oui, absolument.
Et dans ses paroles, notamment dans le dernier album. Hein, ouais. Dernier album qui est disque du mois pour Sweet Home Chicago, qui s'appelle Riding, un album superbe.
Qui est splendide aussi bien pour les chansons que pour la production et la réalisation.
Ouais. Et là, tu as choisi un album dont l'illustration de la pochette est réalisée par Jean-Paul Pagnon, un garçon qui est très 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 talentueux et qui peint des portraits de bluesmen absolument nombreux, toujours dans le même... Dans le même esprit, on est un petit peu dans le figuratif, on est dans le cubisme aussi. Global Griot, un album enregistré pour le compte de Dixie Frog en 2018 que tu nous as apporté. Un double album, je vais essayer de ne pas me tromper de disque.
Oui, parce que je sais que tu aimes bien les doubles albums.
Et donc, pourquoi le morceau et l'album en particulier, Jean-Christophe ?
Eh bien, parce que justement, c'est l'illustration de ce que je disais. Eric Bibb t'explique qu'il a été extrêmement influencé par les bluesmen des origines, les bluesmen acoustiques, etc. Et aussi par la scène folk du début des années 60. 60, que moi je continue à adorer. Je continue à adorer des gens comme John Baez, comme Tom Rush, etc. Et ce morceau est très emblématique parce que c'est un morceau du folk revival, Michael Wrote a Boat Ashore, qui a été rendu célèbre par Harry Belafonte qui nous a quitté hier.
Oui.
Ouais. Mais aussi, il y a plein d'interprétations de ce morceau traditionnel et je trouve qu'il l'interprète avec beaucoup de sensibilité et qui fait le pont entre l'héritage de son père, chanteur de folk,
Léon.
Et puis Léon, oui, et puis son propre univers à lui, qui est un univers de blues très métissé. Voilà.
Et sa fille Yana qui perpétue.
Exactement.
Également.
Ouais. Mmh. Dans un registre un peu plus jazzy, mais très intéressant aussi.
Eric Bibb. Et voilà, il repart en mode radio, comme au tout début du morceau, hein, Jean-Christophe.
C'est pas beau, ça.
Global Griot.
Ah
yes. En direct dans le poste. Merci de nous faire écouter cet album d'Eric Bibb, Global Riot. Les albums d'Eric Bibb s'empilent, ne se ressemblent pas.
À force d'en avoir un tous les ans, il y a des trésors cachés. Oui. Il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'avais fait un voyage un peu long pour le travail et j'ai réécouté toute la discographie que je possède d'Eric Bibb.
Il t'en manque trois.
C'est ça.
Ah. Je les ai à la maison.
Et j'ai redécouvert des petits trésors quand même dans des albums très denses, quand même toujours intéressants, avec toujours des belles chansons, des beaux arrangements.
Et même ce qu'il faisait au début des années 90, avec notamment, tiens, il y avait un album avec Cindy Peters, la chanteuse. Voilà, c'était des choses.
À l'époque,
des choses déjà magnifiques. Alors, nous, on le connaît de ce côté-ci de l'Atlantique depuis surtout une vingtaine d'années, on va dire, globalement, au moment où il a commencé à enregistrer pour Dixie Frog Records. Il a quitté ensuite le label. Il y est revenu avec grand bonheur pour nous. Il enregistre également chez Stony Plain, le label canadien. Et il ne change pas. C'est un garçon. Il a 70 balais, mais il en fait toujours 40. Quoi.
Exactement. C'est ce qu'on s'est dit là. Ce qu'on s'est dit quelques
c'est ce que je me dis de toi aussi très souvent. Et toi, ça fait longtemps que tu n'en fais pas 40, loin de là.
Flatteur.
Et dis-moi, alors, ça t'arrive toi aussi d'empoigner ta guitare et de faire du solo, alors que ce soit dans les tributes à Johnny Hallyday avec les Witch Doctors ou dans d'autres circonstances. Le fait de tenir la scène guitare-chant, ça c'est un exercice qui te plaît bien, ça.
Ah là, oui, alors j'ai toujours eu une fascination, une vénération absolue pour les gens qui peuvent tenir une salle de guitare-voix. Pour moi, c'est le Graal. Honnêtement, ça m'impressionne beaucoup plus que n'importe quel guitare héros de la planète.
Ouais.
Et ça reste le cœur, en fait, de ma création à moi et de notre création avec Laurent, notamment. Hein. Tout est pensé guitare-voix. Et puis, bon, autour, on ajoute.
Après, il y a des petits solos de guitare, mais on ne bâtit pas un répertoire avec des solos de guitare, on est d'accord?
Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. La chanson avant tout.
On bâtit aussi un répertoire avec des chansons qui ne sont pas toutes pleines d'espoir, comme celle d'Eric Bibb, mais. Ouais. Parfois avec un petit peu de désabusion, comme disait Nino Ferrer,
ou alors
carrément du pessimisme. Est-ce que tu me permets de lire des paroles? Tu vas me dire le titre après.
Ouais.
C'est un truc que tu as écrit il y a déjà quelques années. Je retombe là-dessus. Lambeau de démocratie pour suffragant outragé, placebo bel embelli, beau rêve pour rombière déprimée. Cette incessante insinuation que rien n'est blanc, que rien n'est rouge. Mais quel sens a cette sensation d'être une proie qu'on traque et trouve le prix de s'endormir en confiance pour se faire prendre à l'heure où rien ne bouge. Qu'est-ce qui t'a inspiré particulièrement pour cette chanson, L'heure où rien ne bouge?
Tu veux vraiment le savoir?
Ah oui.
C'est
pas une soirée électorale.
Non, c'est pas une soirée électorale. Ça date du deuxième album des Witch Doctors, donc il y a une petite dizaine d'années. C'est un libre ressenti un peu poétique sur les temps et sur le monde que tu comprends de moins en moins, sur les masses qui s'endorment. Voilà, c'est peut-être un peu facile. Alors voilà, ça c'était pour le fond. Sur la forme, c'était une période où j'écoutais un peu Tiefen.
D'accord.
Et j'avais envie d'avoir ce flow, tu vois.
Ouais, tu parles pas du TFN d'avec Paul Persson, tu parles du TFN des années 80.
Du TFN des années 80, 70, 90, 2000. Tu sais, c'est un bel artiste, toujours extrêmement créatif.
Bah oui, puis on parle.
Et le Téléguignol, je lui ai pris, je crois, sur un titre. Ouais, Téléguignol en somnifère, je crois que Téléguignol, c'est de lui, ça. Ouais.
Et donc, on parlait des artistes qui ne sont pas connus et qui font des carrières phénoménales. Alors lui, il a toujours été porté par son public, même sans faire de télé.
Exactement. Et il faut se retrouver un jour. Alors moi, je le suis de loin en loin parce que c'est pas le cœur de la musique que je préfère. Mais il faut se retrouver un jour dans un concert de Tiefen pour mesurer que oui, tout ça est possible. Quoi. Tu te retrouves dans une horde de fans qui connaissent par cœur des textes imbitables, très 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 compliqués, dans une ambiance de communion.
Alligator 427, je vous attends.
Exactement. J'arriverai par l'ascenseur de 22h43.
On s'est aimé dans les maïs, t'en souviens-tu, mon analyse? Le ciel était couleur de pomme et on mâchait le même chewing-gum.
Mais il y a un partage, il y a une générosité, il y a une communion là-dedans. Ouais. Et tu te dis, bon voilà, un bel artiste qui existe assez loin des médias avec un public fidèle.
Et voilà, très très bien résumé. Jean-Christophe, cette émission est remplie de références musicales et remplie un petit peu de gospel aussi. On va continuer avec.
C'est mon côté mystique, tu sais bien.
Et donc, ça, c'est un garçon qui nous a quittés il y a déjà fort longtemps.
72, quelque chose comme ça.
72, ouais, c'est bien ce que je dis, ça fait un demi-siècle quand même. Hein. Et donc celui-là aussi, il est mort avant ta naissance et il a réussi à arriver jusqu'à tes oreilles et jusqu'à ton cœur aussi.
Alors, Révérend Gary Davis, c'est colossal en termes d'interprétation, en termes de musicalité, et puis c'est un artiste colossal. qui avait commencé dans sa jeune jeunesse par enregistrer des faces profanes et qui s'est consacré au gospel. Alors après, pour les non-anglophones, on ne fait pas tellement la différence. Hein. Il y a l'intensité est là, quelqu'un qui a chanté dans la rue pendant une grande partie de sa carrière et qui a eu une influence absolument énorme, qu'il s'agisse de Jean McOconnell de Jefferson Airplane,
ah oui.
Tuna, ou qu'il s'agisse de Bill Durham chez nous, par exemple, hein, ouais. qui a été extrêmement influencé par le révérend Gary Davis. C'est une œuvre colossale, une influence colossale, un artiste vraiment majuscule.
Dont tu possèdes plusieurs albums et tu nous
je
en as apporté.
Je possède tous
hein.
les albums que j'ai pu trouver. Ouais. Ouais. Alors j'ai amené le plus fameux, le Harlem Street Singer, le mieux enregistré sûrement aussi, sur le label Bluesville, le même label que Lightning Hopkins au début des années 60.
Début des années 60, 60-61. Voilà. Ouais.
Et tu vois, justement, le lien est parfait parce que bah, j'ai choisi I Belong to the Band, qui est un de ses standards, et qui a été joué en concert par Eric Bibb il n'y a pas très très longtemps. Donc,
Un petit rapport avec un petit, petite mise en parallèle aussi avec un autre artiste, on parlait de la Nouvelle-Orléans tout à l'heure ouais. avec Spencer Borel. Là encore, un artiste atteint de cécité, trouvé dans la rue, Snooks Snooks
Sylvine.
La réaction est immédiate. Hein.
Ah bah Snooks quand même, oui.
Alors lui, il fait partie, je peux te le dire, de mes meilleurs souvenirs de concert.
Ouais,
1995
bien
à Nouvelle-Orléans.
De la chance de l'avoir vu.
Ouais. Oui, on me le dit toujours, ça. Mais c'est vrai qu'il y a des artistes, je ne suis pas spécialement fier de les avoir vus, mais lui. Et donc le révérend Gary Davis, bah non, en 72, j'étais encore trop jeune. Ouais. S'il y avait, comme ça, on va rêver un petit peu, Jean-Christophe, s'il y avait un artiste disparu, que ce soit depuis longtemps ou pas, mais que tu n'as pas pu voir sur scène, et voilà, à coup de baguette magique, on fait chauffer la DeLorean à 88 miles à l'heure, on revient en quelle année pour voir quel artiste ?
Oh là là, c'est une colle, parce que moi, il y en a beaucoup que je n'ai pas vu sur scène, tu te doutes bien. Hein, tu te doutes bien.
Bien sûr.
C'est très compliqué pour moi de te dire ça. J'aurais dit, non, pas forcément Elvis. Non.
Lightning Hopkins ?
Lightning Hopkins, ouais.
Peut-être ?
Ouais, certainement. Ouais. Certainement, à vrai dire, j'aurais voulu, moi, mais c'est très personnel, hein, j'aurais voulu me téléporter à la fin des années 50, au début des années 60, dans les clubs de Greenwich Village.
Ouais.
Au moment du premier folk blues acoustic revival, là où tu pouvais voir Bob Dylan, Dave Van Ronk, le révérend Gary Davis, Sleepy John S, là où tu pouvais voir Son House, Mississippi, John Hurt. J'aurais aimé voir ça, moi. Et pas dans le format American Folk Blues Festival, j'aurais aimé le voir aussi dans ce format-là, mais dans un contexte de club, tu vois, avec une vraie proximité.
C'est ce que je disais l'autre jour à la Mixav Baker, quand je lui posais la question, on me dit, non, tu serais pas né un petit peu trop tard, et lui, il est aligné en 64, et je lui dis, mais t'aurais pas préféré d'être en 45 pour voir l'arrivée du rock'n'roll et tout ça. Même question pour toi, Jean-Christophe.
Non, je suis. Enfin, c'est mon.
T'es bien dans ton époque quand même.
Je suis bien dans mon époque. Alors, de moins en moins parce que je vieillis un tout petit peu et puis il y a beaucoup de choses que je commence à ne plus comprendre maintenant.
Allons.
Mais non, se téléporter, non, c'est pas spécialement. Je pense que. Puis après, c'est une tournure d'esprit. Hein. Tu sais, je pense qu'il y avait des gens en 54 qui se sont dit. Pourquoi est-ce que je suis pas né dans les années 20
Oui,
voir le début du Charleston, je sais pas.
Mais bon, ceci dit, la nostalgie est
plus
qu'elle
était. Ça n'a un peu rien à voir, mais je me souviens de Frank Sinatra, tu vois, qui te dit un jour, il y a qu'un seul chanteur comme Elvis Presley par siècle. Pas de bol, c'est tombé sur le mien.
Ça, c'était excellent. Excellente référence. Excellente citation. Révérend Gary Davis avec cet album Harlem Street Singer, tu as choisi I Belong to the Band.
Hallelujah, hallelujah, I belong. about me just as much as you please. Talk about you down on my knees. I belong to the band. Hallelujah. 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 I belong to the band. Hallelujah. One of these days by 12 o'clock, this old world gonna really rock. I belong to the band. Hallelujah. 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 I belong to the band. Hallelujah.
Yes, Révérend Gary Davis dans l'album Harlem Street Singer. Ça fait un bon moment qu'il ne m'envoie plus rien, le révérend.
Le révérend, oui, oui. Ouais, hein, au niveau dossier de presse, il est un peu à la bourre.
Il va falloir que je lui renvoie un petit mail pour raviver tout ça, effectivement.
Je ne pense pas qu'il n'ait pas été beaucoup programmé ici, en fait, c'est vrai.
Non, complètement. Alors, peut-être dans d'autres émissions. Après, voilà, il a 168 heures par semaine à la radio. Hein. Et donc, ce révérend Gary Davis, ça m'amène à un autre Davis que tu connais, que tu as vu sur scène, je crois.
Que j'ai vu sur scène.
À Cognac, non ?
À Cognac aussi, au début des années 2000. Tu devais y être aussi, je
crois. Oui, oui, complètement.
Et que j'ai découvert, alors lui pour le coup très tôt dans les années 90, je l'ai découvert tout à fait par hasard. Il y avait un documentaire qui passait à Canal qui s'appelait Crossroads, la musique du diable, en fait, ouais. Il faisait beaucoup à l'époque au début du blues boom, et il intervenait à la fin, il chantait, et j'ai trouvé ce gars complètement, complètement sidérant. Et alors j'ai mis du temps à trouver ses disques, à pouvoir le rencontrer, à pouvoir le voir, et c'est vrai que je guette chacune des sorties parce que j'adore sa façon d'approcher le blues, en mêlant aussi voilà, du métissage, des influences folk, des reprises de morceaux traditionnels et des compositions personnelle. Il fait une carrière mondiale très intéressante. Il fait quelques dates en France là ces temps-ci. Je sais pas si je vais pouvoir réussir à le revoir, mais c'est un artiste que j'adore.
On va essayer de surveiller ça. Guy Davis, donc qui fait partie là de cette sélection, donc c'est forcément un
artiste. Et c'est la même, tu vois, c'est le même environnement qu'Eric Bibb, hein, fils d'acteur, ouais, et d'activiste des années 60 du côté de New York. C'est la même famille, tout ça. Eric Bibb, Kemmo,
bah, j'ai te parlé Kemmo justement.
Alvin Goldhart et Corey Harris.
Kemmo qui a commencé sa carrière de bluesman en jouant le rôle de Robert Johnson,
ouais,
à Broadway, quoi.
Ouais, absolument.
Ah, ça c'est un rôle de composition. Il est devenu bluesman pour l'occasion,
ouais,
et depuis 30 ans,
il est resté. Ouais.
La carrière continue. Alors, Guy Davis, c'est un album que tu nous as apporté, s'appelle Be Ready When I Call You.
C'est le tout dernier, ça.
Ouais.
Oui, oui.
C'est quelque chose.
C'est le tout dernier.
Et le titre Got Your Letter in My Pocket, c'est bien ça ?
Ouais.
On écoute Guy Davis.
Your husband came to see me. I lied right in your husband's face. I said that I did not love you, and I didn't want to take his place. No, I didn't want to take his place. If you ever go to Hightop, remember me to Annie Gray. She's got a houseboat down on the river. Sometimes she lets me stay. Yeah, sometimes she lets me stay.
Monsieur Guy Davis dans son dernier album présenté par Jean-Christophe Panico, Be Ready When I Call You. Et puis pendant que je terminais ce titre, je recherchais ces dates. Effectivement, il y a une tournée européenne qui passe par la France, au Cocorico. Marc-en-Barœul, Brel, Paris. Paris, c'est à la Bellevilloise. Il y a la Charité-sur-Loire. Également Granade, Beaumont-en-Veyron, donc chez l'ami Dominique Bouillon. Et puis Pessac, Rennes et Toulouse. Voilà, on est quand même gâtés. Hein. C'est pas tout à fait en Normandie.
C'est
mais bon.
Pas tout à fait près de chez nous. S'organiser.
On peut faire quelques kilomètres. Ouais. Et ça, c'est pour le mois de mai. Là, je vous engage à aller directement sur son site guydavis.com. Ouais. Merci Jean-Christophe pour tout ça. On va parler un petit peu des Wish Doctors et puis de ce que tu fais avec Laurent Choubrac. On écoutera un titre extrait de Miettes d'éternité tout à l'heure, le double album qui avait fait l'objet d'une belle interview aussi quand vous étiez venu en novembre dernier.
Merci encore de ton accueil.
Et puis on avait écouté des morceaux pendant pratiquement toutes les semaines, pendant je sais plus, 2 mois. On va revenir sur ce disque-là parce qu'il est essentiel puisque vous êtes quand même les roues et combalusiers de la folk en français en Normandie.
Ah, on était parti sur Jacob et de la fin au début, mais c'est vrai que c'était pas mal aussi.
on va garder la référence. Pas mal pour des Lorrains, en tout cas.
Ah ouais, c'est pas mal. Ah. C'est pas mal.
Et alors, il y a des dates qui se profilent à l'horizon. On est le 29 avril, il y a des choses qui arrivent bientôt.
Oui, alors avec les Witch Doctors, alors exceptionnellement sans Laurent et en trio, retour aux origines, on sera à Caen au O'Donnell's le vendredi. Super. 5 mai, pour une soirée qui s'annonce chaude, parce que c'est toujours des soirées chaudes aux O'Donnell's. Ouais. Voilà. On sera en quatuor le 13 mai au Brock Vintage de Dorbeck.
D'accord.
Voilà,
c'est avec Dorothée et Océane.
Non, ça sera les Witch Doctors en quatuor. Witch Doctors en quatuor. Après, on a d'autres dates qui sont plus ou moins des plans privés, donc je t'épargne le détail. La prochaine date réellement très très publique, ça sera le 21 juin à Courseul pour la fête de la musique.
Très bien.
Avec également en quatuor. Et puis on sera également le 8 juillet à l'auberge du Pont du Coudray.
D'accord, ça c'est pas loin de Caen, hein, au sud de Caen, sur le bord de l'Orne.
Voilà. Et après on a d'autres choses à la rentrée, mais qui nous amène en septembre, avec une quatuor acoustique. Donc on aura l'occasion d'en reparler d'ici là.
Bien sûr. Les actualités, c'est les concerts. et puis aussi peut-être déjà se profilent quelques morceaux pour un éventuel futur enregistrement. Où est-ce que vous en êtes avec Laurent ?
On est en pleine session d'enregistrement.
C'est pas vrai ?
Ouais. On a 6-7 titres oui, pour un nouvel album. Alors on verra bien ce qu'on en fait et comment ça se passe. Mais oui, tu sais, Bob Dylan a commencé il y a 30 ans son Never Ending Tour. Nous, on est en Never Ending Recording. On a décidé de ne jamais s'arrêter d'enregistrer. Donc on continue de créer, on continue d'enregistrer.
Oui, parce que vous nous avez quand même gratifié d'un double album. Après, le premier qui s'appelait Va se voir où ce chemin nous mène. Où est-ce que ce chemin va vous mener, dis-moi Jean-Christophe ?
Eh ben, va savoir. En tout cas, on prend tout ce que la vie nous offre et on prend tous ces bons moments de musique que la vie nous offre. Et on a envie de laisser notre trace et puis de creuser ce sillon et de pouvoir le partager avec le maximum de gens.
Très bien. Le mot de la fin, il est pour toi, juste avant qu'on écoute un extrait de Miettes d'éternité avec un titre qui s'appelle Va savoir pourquoi.
Ouais, pourquoi.
Je te laisse les 30 prochaines secondes de radio.
Ah, les 30 prochaines secondes de radio, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Alors, Va savoir pourquoi, c'est un extrait de notre double album Miettes d'éternité, avec quelques influences slide et blues, histoire de caler avec cette émission formidable qu'est Sweet Home Chicago. Voilà. Merci de ton
merci
invité.
Jean-Christophe, merci à très bientôt.
Va savoir pourquoi quelque chose.